Antidote, une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion, des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage, juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'Antidote que j'ai intitulée « La déraison sanitaire ». Oui, j'interromps en effet cette semaine ma série sur la culture de masse pour revenir un temps sur l'actualité, mais vous verrez que l'on n'est cependant pas loin de ce sujet que nous reprendrons dès la prochaine chronique. Depuis plus d'un an maintenant, nous vivons au rythme d'un virus, ou plutôt de plusieurs virus. Le fameux ou la fameuse Covid-19, certes, mais aussi, et peut-être surtout, au rythme du virus de la peur, de l'angoisse. Ce virus se propage à une allure encore plus rapide que le virus qui altère nos corps. Celui-ci altère nos têtes, et il a une tendance lourde à tout envahir. Tout comme le Covid, le virus de la peur donne naissance à des variants, tous aussi graves et inquiétants les uns que les autres, tous aussi contagieux. Le virus du découragement et du fatalisme, celui de la colère, celui du nihilisme. Atteints par ces virus, certains plongent dans le complotisme et la paranoïa, ou encore les addictions diverses. Les plus nombreux, cependant, se résignent et tentent l'oubli par le consumérisme et le divertissement. Il n'y a qu'à observer l'explosion littérale des achats en ligne et des abonnements à des plateformes, également en ligne, évidemment. La diffusion de ces virus est amplifiée par un sentiment total d'impuissance et l'attente perpétuelle d'annonces descendant d'un cénacle d'experts censés savoir mieux que les autres et qui vont nous dicter les bons comportements pour les jours et les semaines à venir. Je me suis appuyée pour réaliser cette chronique sur un ouvrage récent d'Alexandra Legno-Lavastine, très justement nommé « La déraison sanitaire » et j'emprunte donc son titre pour ma chronique. Je trouve en effet très juste de parler de déraison sanitaire. C'est-à-dire de la très grande difficulté de penser raisonnablement à ce qui nous arrive. Il faut dire que penser nécessite de prendre du recul sur l'événement, sur l'actualité, et que l'envahissement médiatique ne nous laisse pas beaucoup de loisirs pour cela. Je me propose donc de vous soumettre quelques éléments de réflexion qui permettent de poser un regard différent sur ce qui nous arrive. Premier élément, il me semble important de relativiser cette pandémie. Je précise tout de suite qu'il ne s'agit en aucune manière de la nier, ni même de la minimiser. Juste de regarder les choses en face. Très contagieux, mais peu mortel, voire le plus souvent ne développant aucun symptôme chez les personnes positives, ce virus touche dans sa très grande majorité les personnes les plus âgées et les plus vulnérables. Certes, on ne peut exclure que de nouvelles souches du virus puissent atteindre des personnes moins fragiles et plus jeunes. Mais on se demande bien quelles mesures coercitives pourraient alors être prises quand tant de restrictions, d'obligations, d'enfermement ont déjà été imposées. Que ferons-nous si les choses ne s'améliorent pas ou si un autre virus, une autre épidémie, une autre catastrophe survient? Pouvons-nous envisager de vivre sous cloche pendant des années? Élément de réflexion fait appel à notre modestie. Nous avons peut-être trop vite rangé au vestiaire la question de l'imprévu, de la fatalité. Nous avons trop vite pensé, dans un dérèglement prométhéen de la volonté, que nous pouvions tout maîtriser, que le progrès, la technologie nous rendaient infaillibles. Nous avons oublié nos limites, notre finitude. Et finitude parmi les finitudes, la mort, bien sûr, que nous avons éloignée de nous. L'esprit du temps tend à occulter la mort et à célébrer la jeunesse éternelle. La technologie s'attache à suivre ou même à devancer. Les fantastiques avancées de la médecine, jointe à celle des biotechnologies et de l'intelligence artificielle, avec leurs irrésistibles promesses en matière de lutte contre le vieillissement et de longévité, devrait nous conduire à bientôt revendiquer comme un droit de l'homme augmenté celui de vivre en forme jusqu'à 120 ans. On fabrique déjà de l'immortalité expérimentale high-tech dans les laboratoires de la Silicon Valley à grand raffort de prothèses et autres nanopuces. Nous avons fini par considérer la mort comme scandaleuse. Et voilà que le virus vient nous rappeler que nous sommes de simples mortels. Refuser le risque, mais jusqu'où? Tenir la mort à distance, mais jusqu'à quand? Et surtout, à quel prix? Je cite ici une phrase de la déraison sanitaire. Il semblerait désormais que la finitude fasse insulte à notre condition, alors même qu'elle en conditionne l'humanité, comme si on ne comprenait plus, dans notre ramollissement, que seul un face-à-face courageux avec nos limites peut nous libérer de l'asservissement à la peur, donc permettre à nos existences de ne pas sombrer dans l'insignifiance, ni se réduire à la circularité répétitive du quotidien. L'horizon de la mort est le prix à payer pour qu'une vie soit proprement humaine. Nous avons tous oublié qu'oublier qu'on meurt, c'est désapprendre à vivre, nous dit encore l'auteur. Cette phrase me conduit à ma troisième réflexion. Qu'est-ce qu'être humain? Vaste question s'il en est. Un homme qui n'est plus rien qu'un homme n'est plus un homme, dit Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme. Autrement dit, un individu privé de la capacité d'exercer ses attributs spécifiquement humains, sa socialité, ses projets, sa liberté, son métier, son ouverture aux autres, ses aspirations, finit par s'étioler et se déshumaniser. Car on ne saurait réduire l'humanité de l'homme à la vie au sens biologique et sanitaire. Même dans une prison dorée, même bien nourrie, logée, vêtue, un homme ne saurait vivre dans toute son humanité s'il ne peut également exercer ses attributs humains. Voici une autre phrase puisée dans la déraison sanitaire. Être et nous ouvrir au monde de telle manière que puisse se poser la question de la liberté, de la vérité, de la responsabilité, de la beauté et de la justice, et pour cela s'arracher aux soucis exclusifs de la vie. L'expérience décisive à cet égard est notre face-à-face assumé avec la finitude. Se libérer de la circularité répétitive du quotidien, s'arracher aux soucis exclusifs de la vie, c'est cela qui constitue notre humanité. Et cela demande d'accepter qu'il y ait quelque chose au-dessus de la vie. Je cite encore l'auteur. Dans nos sociétés laïques, qui ne prennent plus leurs ordres ni du ciel ni de la tradition, la disponibilité à risquer un peu notre vie pour en préserver le sens et l'humanité constitue notre seule transcendance. Notre part humaine ne peut reposer à notre époque que sur notre capacité à répondre de principes universels qui exigent que l'on soit prêt à se risquer pour eux. Un homme n'est libre, debout et donc vivant au sens fort du terme que s'il consent à se demander pourquoi, pour quels principes, quels idéaux, quels biens supérieurs il serait prêt, le cas échéant, à engager sa vie et à risquer sa santé. À moins, nous sommes morts. L'auteur de La déraison sanitaire cite encore Václav Havel, célèbre dissident de la Tchécoslovaquie sous emprise soviétique, devenu premier président de son pays après la Révolution, et on peut imaginer qu'il savait de quoi il parlait quand il disait « L'incapacité à risquer sa vie pour en sauver le sens et la dimension humaine mène non seulement à la perte de son sens, mais aussi, en fin de compte, à la perte de la vie tout court. S'il n'y a plus guère de causes ou de raisons pour lesquelles nous serions prêts à mourir, il est à craindre que nous n'ayons plus beaucoup de raisons de vivre. Si la vie est tout, c'est la veulerie, la peur généralisée et la lâcheté qui guettent, car comment alors s'arracher à la dictature dévorante de la quotidienneté qui nous déshumanise et nous asservit ? Et ceci me permet de terminer cette chronique par une dernière réflexion. Il s'agit des conséquences de la crise sanitaire et surtout de son traitement sur notre démocratie. Dans La condition de l'homme moderne, paru en 1958, Hannah Arendt montre comment la société consumériste, dans laquelle la vie n'a d'autre but que son propre entretien, fragilise l'exercice de notre humanité. Autrement dit, la faculté d'instituer, de faire œuvre, d'agir politiquement, de penser, de juger et de sentir par soi-même. Une société consumériste bien peu compatible avec l'exercice d'une véritable démocratie. Car la vie politique démocratique, c'est l'avènement d'une vie qui ne vise avant tout ni la survie, ni le bien-être, ni la conformité à un modèle, ni le simple respect d'une tradition. Elle n'est plus une vie en vue d'elle-même, mais une vie en vue de la liberté. La crise actuelle ne vient que renforcer, donner un coup d'accélérateur à des tendances déjà lourdes dans nos sociétés hyper individualisées, où tous nos idéaux semblent pouvoir se réduire aux seuls critères infantiles du bien-être et du divertissement. Plus que jamais, nous pouvons constater aujourd'hui le formidable assujettissement de nos gouvernements à la technocratie médicale. Celle-ci fait abstraction de ce qui constitue l'humanité et l'existence. Elle ne connaît par définition que le sanitaire. Quand on sait avec quelle facilité et quelle vitesse la peur et le primat du viscéral peuvent s'emparer des masses, avant tout animées par la passion de la sécurité, de la préservation de soi et du bien-être, on voit mal pourquoi la prémisse selon laquelle la vie est la valeur suprême ne nous conduirait pas à sacrifier durablement, et non plus provisoirement, certaines libertés sur l'autel d'un état sanitaire qui nous guérirait de tout. Quand on sait que les tentations autoritaires et la demande d'ordre rallient 5 ou 6 Européens sur 10, surtout parmi les jeunes, on se demande en vertu de quel miraculeux garde-fou le développement d'un parti de l'ordre sanitaire, l'expansion d'un néo-hygiénisme et l'institution d'une surveillance généralisée seraient à exclure. Après tout, la fragilité de la santé humaine représente une urgence perpétuelle, susceptible de fournir à l'État un alibi permanent pour un état d'exception indéfini. Pourquoi n'en viendrait-on pas à considérer que l'État, en doux despote éclairé, pourrait et même devrait tout faire pour nous protéger ? Tout, y compris nous traquer numériquement, veiller sur nous biotechnologiquement et se déployer dans les moindres recoins de notre existence. Pourvu bien sûr que ce soit au nom de la santé publique et du bien commun. Alors, pour conclure, peut-être devons-nous nous poser quelques questions. Tout faire pour sauver des vies ? Oui, mais à quel prix ? Au prix de ce qui fait l'humanité même de l'existence ? Peut-on laisser l'usage de la peur engendrer un biopouvoir, s'octroyant le droit de nous imposer, contre notre gré, tel ou tel comportement salvateur ? Un pays ne peut vivre dans la crainte permanente de la maladie sans sombrer dans le délitement. Être un homme, c'est être capable de résister au virus de la peur, mortel pour une démocratie. Voilà, je vous laisse sur ces réflexions. Je vous rappelle l'ouvrage principal sur lequel je me suis appuyée pour cette chronique, La déraison sanitaire, le Covid-19 et le culte de la vie par-dessus tout, d'Alexandra Léniel-Lavastine. Il est sorti début 2020 aux éditions Le Bord de l'eau. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine chronique d'Antidote, dans laquelle